Hello?
All right, good morning, everyone.
Bonjour à tous. Bonjour à tous. La salle est relativement vide, mais c'est parce qu'il est 8h30 et que tout le monde s'est beaucoup amusé au gala hier soir. Donc, nous sommes à la première séance de cette réunion avec le groupe des représentants des entités non commerciales et le conseil d'administration. Alors, pour les scribes, nous allons donc faire un tour de table pour nous présenter. Nous allons commencer par Stéphanie. Stéphanie Perren, groupe des représentants des entités non commerciales. Faiza Navaji, groupe des représentants des entités non commerciales. Tatania Chupin, groupe des représentants des entités non commerciales. Ron De Silva, conseil d'administration. Et Dan Ferlin, groupe des représentants des entités non commerciales. Yoran Marbi, ICANN Org. Sherine Chalabi, conseil d'administration de l'ICANN. Chris Despain, conseil d'administration. Matthew Shares, conseil d'administration, Rafid Hachemin et également conseil d'administration. Avri Doria, conseil d'administration, Georges Sadowski, conseil d'administration. Nouvel intervenant au micro. Nous allons passer directement aux questions, mais j'apprécierais énormément si on pouvait discuter plutôt que de parler des différents thèmes. Donc, j'aimerais bien, en fait, entrer dans la discussion. S'il y a des questions de suivi, on pourra toujours le faire. Nous avons 5 questions qui nous ont été envoyées de la NCSG. J'espère qu'on arrivera à toutes les traiter. Je sais que vous voulez d'abord répondre aux questions du conseil d'administration, c'est ça? Donc, on va commencer par répondre à la première question et ensuite, on passera à la discussion. Nouvel intervenant. Pardon. Donc, je vais commencer par la deuxième question. Quels sont vos objectifs à long terme, les plus pertinents à la NCSG? Donc, en fait, l'idée des buts à long terme, des objectifs à long terme, nous opérons sur la base de nos principes directeurs, qui consiste à limiter la définition du DNS, donc que l'ICANN ne passe pas à la régulation du contenu, donc à limiter les avis du GAC autant que possible. Et puis, il y a également la question du RGPD et du WHOIS. Donc, à court terme, nous souhaitons, en fait, normalement, nous considérons les groupes, les différentes questions qui ont lieu au sein de l'ICANN et nous essayons de donner nos valeurs, dans les différents PDP. Ce qui nous préoccupe, c'est l'adoption des recommandations relatives à la responsabilité suggéré par le CCWG. Cette année, nous souhaitons également permettre à nos membres d'être plus impliqués dans les politiques. Donc, nous avons besoin de davantage de bénévoles. Nous avons un cours sur les compétences pour aider les bénévoles à s'impliquer. au sein de la NCSG. Et donc, l'objectif général, c'est la domination mondiale. Non, je rigole. Donc, Farzi, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut ajouter un point par rapport à tout ça? Stéphanie, au micro. Oui, et puis on pourrait ajouter la paix dans le monde entier, n'est-ce pas? Nouvel intervenant au micro. Des commentaires au conseil d'administration par rapport aux objectifs à long terme pour 2018? En fait, j'ai une question. En ce qui concerne l'alignement par rapport aux priorités de la communauté, comment est-ce que vous assurez de vous aligner? Comment est-ce que vous avez les ressources nécessaires pour donc respecter les priorités de la communauté? Pas dit au micro. On vous a demandé de ne pas couper les budgets de manière à ce que nous puissions continuer de travailler. Et puis, nous n'attendons pas simplement que tout tombe du ciel, nous cherchons des ressources qui puissent appuyer notre travail ou permettre notre travail de bénévoles. Nous essayons de travailler de manière stratégique lorsque nous soumettons nos demandes de budget supplémentaires. Donc, conformément à notre mission, conformément à ce que nous souhaitons faire pendant l'année. Il y aura nos micros. Est-ce que je peux poser une question? Je ne veux pas répéter ce que j'ai déjà dit par rapport au budget, mais il y a quand même un point que je réfléchis de plus en plus. Et on en a parlé un petit peu dans les couloirs. Donc, 80 à 85% du budget est fixe. En fait, c'est des décisions qui ont été prises à l'avance. Tout ce qui est la traduction, etc. Je ne critique pas, mais ça fait partie du budget, mais ce n'est pas quelque chose qui change nécessairement. Pendant ces 85, dans ces 85%, il y a donc le rythme des révisions. Et il y a quelque chose qui ressort dans la réunion, c'est que par exemple, l'année prochaine, on devrait avoir 9 révisions, avec une nouvelle révision sur la responsabilité. Et dans le budget, c'est 700 millions de dollars. Nous avons fait le calcul. Et donc, si on pourrait avoir en fait 4 révisions par an, donc 1,2 million par an. De l'autre côté, on a le soutien du personnel. On ne peut pas engager des personnes pour 11 à 12. Donc, on a un petit peu une structure. On a des consultants externes. Et ensuite, on réalloue les personnes lorsqu'il y a une chute, parce qu'on ne peut pas les faire partir tous les ans. En tout cas, ce n'est pas ce que nous souhaitons faire. Donc, 700 000 dollars. Donc, ma question, c'est qu'en pensez-vous par rapport au rythme des révisions? Et il y a un autre aspect. Depuis que je suis à l'ICANN, tous, vous m'avez parlé du problème de l'épuisement en ce qui concerne les révisions. Trop de temps à se regarder le nombril et pas assez de temps passé sur les politiques. Donc, ma question, c'est la suivante. Qu'en pensez-vous? Ça, c'est les 85%. On est obligé d'avoir un dialogue. Mais là, ce serait un dialogue du changement des statuts. Donc, comment le faire? Il faut en parler. Et puis, quels sont vos points de vue par rapport à ces 85%, stratégie des réunions, etc. Dites-nous en tout cas quelles sont vos idées là-dessus. Merci. Et je crois que, pour vous dire la vérité, vous dominez presque le monde. Stéphanie au micro. Oui, merci. Chris va sans doute écouter ce que je dis. Je fais partie de l'équipe de révision WHOIS et en fait, on perd un peu son temps, on gaspille de l'argent. Je ne sais pas ce qu'en pense Chris, mais moi, je suis épuisée parce que je passe tout mon temps là-dessus, alors qu'on est toujours, on a toujours besoin d'avoir davantage de perspectives. On avance, donc pourquoi Est-ce qu'on passe son temps là-dessus? Lors de la dernière révision, il y a eu une liste de contrôles, donc faisons-le une fois que le problème est résolu. Nous avons beaucoup de membres, mais nous n'avons pas énormément de personnes qui sont vraiment expertes dans les domaines précis. Et donc, si ces personnes-là font partie de 5 comités, parce qu'on ne peut pas abandonner le RDS et la révision du RUIS, et puis il y a le problème des conflits avec la loi, je ne vais pas continuer de parler du RUIS, mais ce n'est pas quelque chose qu'on fait en principe dans une entreprise. On dit, bon, une seule révision cette année et 2 l'année prochaine. Et après, on passe aux 7 petit à petit. Farzané au micro. Alors, en ce qui concerne les révisions, et ça, c'est mon point de vue personnel, tant que on considère les statuts, donc les statuts nous permettent d'effectuer ces révisions, il doit donc y avoir des délais. Et il faut les faire. On ne peut rien faire d'autre. Alors maintenant, je ne sais pas où on en est actuellement, s'il y a quelque chose qui est urgent, qu'il faut absolument faire cette révision. Il y aura nos micros. Ça fait partie des statuts. Alors, on ne va pas passer toute la réunion à en parler, mais il faut quand même répondre à cette question. C'est quelque chose d'obligatoire, selon les statuts. Et donc, parfois, les choses prennent un certain temps. Les révisions de l'organisation prennent parfois 4 ans et elles sont à refaire tous les 5 ans. Donc, ça, c'est un problème. Et à ce moment-là, on n'a pas le temps de mettre en application la révision. Normalement, on devrait faire la vérification. Donc, ça, c'est la faute de personne. C'est quelque chose qui arrive un petit peu partout. La question, c'est qu'en fait, on n'a pas le temps de faire la vérification. Et donc, c'est une discussion qu'il faut avoir en tant qu'institution au niveau général. Mais ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est que on parle toujours des 10 à 15% qui changent chaque année. On ne parle jamais des 85%. Alors, je comprends votre critique par rapport au budget, parce que c'est important. Mais les 85% que nous avons dans les statuts, les politiques, etc., tout ce type de choses, il faut m'en parler. Donc, en fait, c'est vraiment là-dessus que je souhaite avoir votre point de vue. Ce n'est pas une décision. C'est moi qui vous pose la question. Si on le fait, on va publier un document pour consultation publique et tout y mettre. Nouvelle intervenante au micro. Un bref commentaire par rapport aux révisions. Je pense que l'approche pourrait être plus pragmatique parce qu'une fois qu'on a rédigé les statuts, lorsque les statuts sont adoptés, en général, on ne sait pas quelle est la suite. Donc, par exemple, il y a l'ATRT2. On est dans la piste de travail numéro 2. On est en cours de travail là-dessus. Donc, il faut lancer la révision. C'était l'année dernière, ça. Mais d'un autre côté, je pense qu'il faut il y a le problème de l'épuisement des bénévoles. Et donc, les gens se sont portés volontaires l'année dernière, mais le problème, c'est le temps. Donc, je pense que la communauté, le conseil d'administration doivent en parler de manière très honnête, très ouverte. Peut-être pourrait-on reporter certains travaux. Moi, j'ai participé au processus sur la responsabilité et je pense franchement qu'on peut reporter la révision tant qu'on n'a pas adopté le cadre de travail pour la piste de travail numéro 2. Nouvel intervenant au micro. Y a-t-il d'autres commentaires du conseil? Un dernier point. Comme vous le savez, nous travaillons à la planification stratégique et au but à long terme. Donc, si vous n'avez pas encore contribué à ce travail de la MSSI, ce serait bien parce que ce serait très utile. Alors, nous allons maintenant passer aux questions pour le conseil d'administration. Nous allons donc les afficher. Alors, je ne sais pas si vous souhaitez présenter ces questions. Qui va présenter la première question? Nouvelle intervenante au micro. Je vais m'occuper de la première question. J'aimerais en fait surtout en discuter plutôt que de trop présenter. Alors, d'abord, j'aime bien faire des blagues et je sais que les blagues de Yoran sont toujours nulles, donc moi aussi je vais faire une blague nulle. Donc, pour moi, c'est un modèle spaghetti. Voilà ce que j'aimerais dire, c'est un modèle spaghetti. C'est un peu comme si vous jetiez quelque chose contre un mur pour voir ce qui tient. Et en fait, par rapport à ce modèle, il a collé, il est resté au mur. Donc, c'est déjà une bonne chose. Je vous remercie. Et peut-être que c'est pas parce que vous nous... Je ne sais pas si c'est parce que vous nous écoutez ou si, si c'est autre chose. Si vous avez éliminé toutes les mauvaises options que nous avions suggérées dans le premier modèle. Mais il y a certaines choses qui ont été mentionnées lors du panel intercommunautaire hier. Alors, on ne va pas continuer à parler de cet accès sur plusieurs niveaux pour le GAC, mais j'aimerais mentionner quelque chose. Il y a des rumeurs. Les gens, en fait, parlent de l'accès en couche et de l'accès sur plusieurs niveaux. C'est différent. Et on parle de discrimination dans les couloirs. Pour moi, c'est une nouvelle définition. Et s'il y a des gens qui parlent de cette manière, eh bien, il faut absolument définir les choses parce que ce n'est pas comme ça que les APD considèrent les choses. Voilà, donc je souhaitais au moins amener le sujet. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est comment est-ce que vous voyez les choses se mettre en place? On a dit hier qu'il faut que ce soit multipartite. Nous pensons simplement que le GAC doit s'occuper des agences d'application de la loi. C'est énorme comme travail, ça va prendre un certain temps. Donc le GAC, ça suffit, c'est tout ce dont il souhaite occuper. Nous sommes chargés du reste, y compris de la cybercriminalité. Pour nous, les normes sont clés. Comment va-t-on y arriver, sachant que ISO, en général, ça prend 5 ans? Donc, à votre avis, comment est-ce que on va mettre ceci en place? Je pense que vous voulez commencer, Matthew. Je croyais que vous alliez prendre toutes les questions. Après vous. Nouvel intervenant au micro. Donc, je vais vous dire tout ce que je dis d'habitude, mais parlons du GAC surtout, parce que ça, c'est une question qui vous préoccupe. En principe, le GAC ne devrait pas être opérationnel, et ce n'est pas ce que nous prévoyons. Nous ne demandons pas au GAC de prendre des décisions sur l'application de la loi. C'est au pays de prendre ces décisions. Et par le GAC de nous fournir les informations. Donc, le GAC ne prend aucune décision par rapport à ça. Ce sont les gouvernements. Autre chose, nous avons demandé au GAC, et je vous expliquais pourquoi, de ne pas devenir opérationnel, mais de trouver un cadre de conduite, de définir un certain nombre de règles pour l'accès aux informations. Et ce code de conduite donc s'appliquerait, par exemple, à l'OMPI. Voilà un petit peu le processus. Donc, ce n'est pas que le GAC va devenir un organe basé sur les opérations. Alors, par ailleurs, on parle souvent du GAC qui fait partie de la communauté, qui a des règles spéciales. Mais en fait, ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe. D'après ce que l'on sait aujourd'hui, et cela pourra changer, les APD qui font partie des gouvernements, qui ont en fait le même système de salaire, les APD font partie des gouvernements dans de nombreux pays. Et donc pour eux, l'ICANN, c'est l'auto-accréditation. Et donc ils nous considèrent comme une organisation qui vraiment fait de l'auto-accréditation. Et ce que nous comprenons, et ça pourra changer, c'est qu'il faut qu'il y ait implication des gouvernements. Donc, nous avons une entité qui s'appelle le GAC, qui est constituée de gouvernements. Mais, attention, pourquoi est-ce que je fais ça? Eh bien, la raison, c'est que nous avons un ensemble de politiques dans le contrat et je dois les respecter. Que je les aime ou pas, ces politiques, je dois les respecter. Et de l'autre côté, j'ai la loi. Donc, il faut que... en fait, je suis un petit peu entre les deux. Si, par exemple, les politiques n'existaient pas, ou si les contrats n'existaient pas, je pourrais me comporter de manière différente. Et c'est ça l'équilibre à trouver. Vous, vous n'avez pas à respecter cet équilibre. Mais si vous voulez changer les politiques, eh bien, nous devons poursuivre ce processus de politique. Sinon, il y a un manque de correspondance entre les politiques et le RGPD. Donc, oublions le WHOIS. Disons qu'il n'y a pas de WHOIS. Partons du principe qu'il n'y a rien. Donc, il y a une ligne. Donc, au départ, vous avez le sans modèle, aucun modèle. Il faut y avoir une diligence. Il faut avoir, en fait, les tribunaux qui approuvent l'accès aux informations. Alors, les politiques qui ont été définies par la communauté, nous essayons en fait de nous éloigner de ce premier point sur la ligne. C'est ça, c'est une ligne. Et le RGPD est à l'autre bout. Et nous en sommes au point où nous devions en être. Comme on l'avait dit il y a 8 mois, je pense que le modèle est à peu près correct. Tout le monde n'est pas d'accord nécessairement, mais il y a des désaccords, des divergences d'opinion des deux côtés. Et certes, quelqu'un m'a demandé d'imprimer un T-shirt que je distribue avec cette question. Et donc voilà où nous en sommes. Nous essayons d'être transparents. Nous avons envoyé ce livre de recettes aux APD. Et dans ce livre de recettes, toutes les questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre dans la communauté, nous les avons posées à ces agences, à ces autorités. Parce qu'en fait, nous n'avons pas la réponse. Et nous allons ajouter d'autres questions qui ressortiront de la séance d'hier. Et nous avons essayé de voir si nous pouvons ajouter une séance supplémentaire où vous allez pouvoir poser vos questions spécifiques par rapport au livre de recettes sur le RGPD. Nous allons voir si c'est possible. Et ensuite, nous avançons et nous parlerons aux APD.
Il y a très peu de temps pour la mise en application. Et si nous n'avons pas de directive des APD, il y aura donc un risque et nous aurons un WHOIS fragmenté. Parce que si nous ne connaissons pas la réglementation et qu'il y ait encore une fois un débat, l'ancienne loi sera appliquée. Et donc, nous savons que ces systèmes-là n'ont jamais été testés devant un tribunal. Et ça fait 20 ans que je travaille sur le WHOIS et il n'y a jamais eu aucun examen, aucun test de fait. Nous ne savons donc pas. Mais nous avons à peu près une bonne idée de ce que la loi dit à ce sujet. Donc, nous avons besoin de faire ça maintenant. C'est le risque que nous avons mis devant les APD. Nous avons une bonne relation avec eux maintenant. Nous respectons leur travail. Et nous espérons avoir plus de contributions très bientôt. Merci. Becky Beer au micro. J'aurais parlé des délais. Je pense que nous nous approchons de ces délais, mais nous ne savons pas exactement à quoi nous attendre et nous ne savons pas quand les choses vont être mises à exécution. Cela fait plus de 20 ans qu'on travaille. Il n'y a jamais eu d'incitation pour amener les gens à la table. Le RGPD, au moins, nous donne une incitation à travailler et à nous mettre à table. Pour travailler et à pouvoir avoir une conversation informée pour pouvoir atteindre un accord. Et la loi est là et nous savons qu'il n'y a pas de compromis parce que la loi, c'est la loi. Et ICANN doit se conformer à la loi. Une fois que nous en saurons plus, nous savons que cela prendra du temps de toute façon. Et je pense que ça fait partie de la conversation de ORG avec les DPA. On veut savoir si les DPA peuvent participer de façon très claire pour nous donner des directives et répondre à nos questions. Nous devons avoir un processus d'élaboration de politiques informées pour que les gens ne nous disent pas forcément. D'un côté, le RGPD veut dire ça, et de l'autre côté de la salle, on va nous dire le RGPD veut dire quelque chose de complètement opposé. Nous, enfin, du moins, à mon avis, et je me répète, nous devons avoir les RGPD dans la salle. Ils doivent être avec nous à la table. Stéphanie au micro, si nous parlons directement, si nous vous parlons directement, c'est que nous apprécions votre temps, votre intégrité. Mais je voudrais qu'on retourne vers la discussion. La discussion donc que nous avons eue l'autre jour au GNSO sur les PDP et sur la fatigue et la longueur de ces PDP. En fait, il y a des acteurs qui sont payés par les clients et qui font de l'argent. Bon, c'est juste, ils représentent un point de vue. Moi, je représente un point de vue, mais je ne suis pas payée, bien sûr. Est-ce que vraiment on peut se permettre au niveau financier dans ce cas-là? Ça continue, ça peut continuer pour toujours. Donc, je ne suis pas une avocate, mais je regarde les émissions d'investigation à la télévision. C'est tout ce que je sais. Mais c'est comme ça que je connais les bases. On a besoin de cela. On a besoin de vérifier cela parce que ça peut continuer pendant 10 ans. Il faut qu'on fasse quelque chose parce que... Alors, le groupe RDS et avec Chuck Gones, il n'a pas pu empêcher les gens à continuer à ignorer les fêtes et à chanter comme ça, sans cesse. Je ne vais pas vous lire le document, mais je veux dire, c'est ridicule. Il faut absolument qu'on soit conforme. Il faut qu'on écoute. Il faut être diplomate, il faut s'engager avec le DPA, avec le PDA. Mais je ne pense pas vraiment qu'ils peuvent venir à l'ICAN et participer au PDP et régler le RDS. Je ne pense pas qu'ils vont nous donner un cadre de travail. Agoran Marby au micro. Oui, vous avez raison. Juridiquement, il est difficile pour les Européens, du moins les gouvernements européens. Mais c'est le même problème qu'il y a au GAC cette semaine. Pour donc les membres individuels au GAC, il est très difficile de participer légalement au PDP, parce qu'ils sont des serviteurs civils de leur pays. Ils sont payés par les citoyens qui payent leurs impôts. Et ils ont des instructions par rapport à leur gouvernement. Donc ils ne sont pas... Ils doivent rester à la conversation, mais il y a des attentes. Donc... L'APD n'est pas une autorité européenne. Non, les APD et les autres autorités européennes ont des réglementations en place très spéciales sur la question. C'est une question que nous devons traiter avec tout le monde et de façon égale. Après les nouvelles lois et l'article 29. Donc, en ce moment... C'est un arrangement qui est volontaire. Ils nous ont envoyé donc un courrier après l'article 29 qui a donc commencé le dialogue. Lorsque le Conseil et la protection des données, le Conseil de la protection des données a donc plus de pouvoir juridique que les APD individuels. Je pense que nous, en tant qu'institution, devons trouver des manières d'interagir qui soient meilleures avec les gouvernements pour mieux comprendre. Il y a des choses dont on a besoin pour protéger notre mission. Nous devons savoir comment interagir. Nous ne le faisons pas toujours de la bonne manière. Nous voulons que tous les acteurs soient dans la salle lors des discussions. Et nous voulons aussi avoir une perspective technique. Nous voulons nous assurer que l'ICAN ne devienne pas une organisation politique. Mathieu, au micro, y a-t-il des commentaires de quelqu'un? Non? Chérine, vous voulez prendre la parole? Chérine Chalabi, Stéphanie, vous avez aussi parlé d'autre chose. Vous parlez des membres du PDP et l'efficacité des délais et de la chronologie. Est-ce que vous avez parlé de ça, n'est-ce pas? Becky, oui. Chérine, oui, vous avez dit qu'il y avait trop de personnes qui participaient. Il y a des gens qui sont payés et d'autres pas. Becky, je pense que c'est une faute fondamentale pour moi dans le modèle multipartite. Si vous représentez, donc, j'aime pas parler des gars de la propriété intellectuelle, mais pourquoi n'en parlerions-nous pas? Ils sont là, par exemple, pour représenter leurs clients. Ils sont souvent payés pour représenter leurs clients. Ça fait partie de notre modèle. Ils ont zéro incitation pour en arriver à des compromis. Il n'y a pas de façon plus facile pour faire participer les gens, pour qu'ils viennent faire ça, ça et ça et ça. Ils sont pas payés, eux, pour faire... Ils sont payés pour faire ce qu'ils ont à faire pour leurs clients. Donc, comment est-ce que on passe outre cela? Sur le RDZ, je dois dire que c'est vraiment frustrant. On leur donne un document sur lequel beaucoup de personnes ont travaillé pas très très longtemps. Ce sont des gens bénévoles qui ont beaucoup travaillé. Par exemple, sur le Berlin Group. Et maintenant, la validité du document est en discussion. Voyons, c'est pas possible, le temps passe, les bureaux d'enregistrement et les opérateurs de registre vont devoir fermer le oui s'ils ne trouvent pas un compromis qui fonctionne. Nous avons un code de conduite qui est antique. Il faudrait qu'on change les normes de ce code de conduite. Il doit y avoir des audits qui soient mis en place, des protocoles qui soient stricts, des personnes qui soient limitées dans leur travail. Je peux continuer comme ça pendant longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut que la société civile ne va pas vouloir gaspiller leur temps pour venir à la CAN. Et un des services de valeur ajoutée pour être celui-ci, les forces de l'ordre utilisent leurs produits, le produit de ces opérateurs de registre ou distributeurs. Donc, Mathieu Perrin, non, Stéphanie, écoutez, il faut qu'on continue. Stéphanie, oui, c'est un vrai problème. Alors, Farzi au micro, je voudrais faire un commentaire sur le RGPD. C'est dommage qu'on puisse pas mettre l'accès à plusieurs niveaux avant que la loi soit mise à exécution. Nous l'avons dit dans toutes les lettres que nous vous avons envoyées. Nous sommes préoccupés de la fragmentation des données. Nous demandons s'il y a des chances que nous puissions passer donc à ce modèle à plusieurs niveaux avant que cette loi passe. Ensuite, nous pourrons mettre en place donc un modèle à plusieurs accès, à plusieurs niveaux. Et ainsi, la communauté sera beaucoup moins préoccupée par ce modèle comme elle le fait aujourd'hui. Nous nous préoccupons sur un modèle qui ne pourrait pas être amélioré par l'avenir. Je me demande si il serait possible de mettre en place donc ce modèle numéro 3. Chris Espen, oui, Goran, je dois répondre à cela. Le premier résultat serait celui-ci. Nous allons collaborer pour établir un modèle et en même temps, nous allons maintenir le status quo. Oui, c'est possible. Deuxième possibilité serait que nous obtenions des directives de la part des APD pour nous aider à faire des changements minimums. La troisième possibilité, c'est que rien ne se passe, que nous n'obtenions aucune aide. Et ce qui se passera, c'est que nous allons nous réfugier en tant qu'entité commerciale dans un environnement très fermé, parce que c'est sécurisant. Le problème est que cela va causer de la fragmentation. Il y aura des personnes qui vont tout fermer et d'autres vont fermer que quelque chose. Ça va être dangereux de toute façon. Et nous n'aurons plus le contrôle. Nous devons donc avoir des personnes qui viennent vers nous et qui contribuent. Matthew, Fazi, vous voulez poser la prochaine question? Ou vous voulez passer au commentaire? Fazi, au micro, je voudrais parler de tout cela. Nous avons travaillé sur la juridiction. Et nous en avons parlé durant la piste de travail numéro 2. Nous avons soulevé des questions sur lesquelles il n'y avait pas eu de discussion à la ICANN avec la communauté. Et cela lié aux sanctions sur l'accès au DNS. Les recommandations de ce groupe ont ainsi facilité l'accès pour les titulaires au nom de domaine et pour les clients. Nous pensons que c'est dans la mission de la ICANN de faciliter l'accès des clients au DNS et que tout devrait être fait de façon à soulager toutes sortes d'obstacles à propos de cet accès. Je faisais partie de ce groupe avec Tatiana et d'autres membres. Et nos membres ont vraiment soutenu ces recommandations. Lorsqu'il s'agit de commentaires publics, et on en a parlé déjà avec le Conseil, quand on a parlé des recommandations, nous avions demandé à ce que nous puissions avoir un avis favorable et voir si tout cela pourrait être adopté d'une manière complète. Après la période de commentaires publics, les réponses, surtout lorsqu'il s'agissait de la licence OFAC, n'étaient pas très positives. Donc c'est frustrant. ICANN devrait faire tout ce qu'il peut pour faciliter les choses et remplir sa mission. Nous étions donc surpris par le comportement pas très positif. Si vous regardez les commentaires du conseil sur le document, il y a des commentaires qui sont surlignés en orange et qui disent oui, nous soutenons telle ou telle inquiétude. Et pratiquement tous les commentaires du conseil sont un petit peu orange et jaune. C'est jamais vert. Alors je voulais juste dire que vous demander quels sont vos plans, qu'allez-vous faire? Matthew, je vais passer la parole à Avery. Avery Doria au micro. Je pense que la réponse sur l'opportunité est liée au fait que le Conseil et ICANN.org auront besoin de voir un ensemble de recommandations pour bien comprendre comment les choses fonctionnent et qu'il y aura donc un processus d'apprentissage sur ce sujet. Et une fois qu'on aura compris combien de temps ça prend, comment c'est fait, combien ça coûte, etc., nous allons pouvoir comprendre les priorités. Je ne pense pas que la réponse voulait dire « non, nous ne sommes pas en faveur de ce que vous voulez ». Non, la question c'était « qu'est-ce que cela va prendre ? Combien ça va coûter ? Combien de temps ça va durer ? Comment est-ce que cela va avoir un impact sur d'autres personnes ?» Ce n'est pas que le Conseil ne l'a pas soutenu, c'est parce que on ne savait même pas comment tout cela fonctionnait. Donc, il doit y avoir quand même une étape initiale de recherche pour savoir quels sont les faits, pour savoir combien ça va coûter et combien de temps ça va durer. Farsi, c'est très bien, je vous remercie. Je suis contente que vous ayez répondu à ma question. C'était pour moi une réponse positive. Cependant, quand il s'agit de l'accès au DNS, les pays qui viennent de les gens qui viennent de pays où il y a des sanctions savent que leurs noms de domaine peuvent être confisqués. Donc, les licences OFAC ne donnent pas forcément ne facilitent pas les choses pour certains bureaux d'enregistrement. On devrait considérer les coûts d'opportunité pour dans ce cas-là. Je sais que c'est un processus compliqué. On ne sait pas exactement comment il faut obtenir une licence OFAC. Nous devons faire des recherches là-dessus. Dire toujours que oui, nous devons vérifier le coût de telle ou telle chose n'est pas suffisant. J'aimerais que vous ayez une approche un peu plus modérée. Oui, bien sûr, vos inquiétudes sont valides, mais nous devons aussi considérer que c'est un processus incertain. Merci. Avril Doria au micro. Oui, il y a peut-être eu une meilleure façon d'approcher les choses. Vous savez, le coût d'opportunité, c'est une façon de parler des choses très business. Il faut voir ce qu'on peut faire et comment on peut le faire dans un délai déterminé. Il faut voir ce qui est pratique. Oui, mais vous avez raison. Matthew, au micro. Avril, je ne voulais pas vous rendre la vie difficile, mais peut-être pourrions-nous parler des recommandations de la piste de travail numéro 2, encore une fois, parce que nous avons vu qu'il y avait des commentaires de la part de tous les sous-groupes, il y avait des discussions sur les budgets, sur les réductions de coûts, etc. Donc, c'est une inquiétude. Est-ce que cela va être mis en œuvre ou pas? Si nous ne pouvons pas avoir d'assurance de la part du Conseil, c'est un problème. Nous savons qu'il y a des problèmes de budget, mais nous devons considérer les sous-groupes avec lesquels nous travaillons, nous devons les prendre en compte et nous devons leur donner des informations sur les mises en application. Si nous ne pouvons pas les réassurer sur ce qui va se passer, c'est problématique. Il faut que l'on ait une idée de ce qui va se passer et de savoir si le budget est un des critères qui rentre en jeu pour approuver ou pas la recommandation.
Nouvel intervenant. Le Conseil va rencontrer les deux coprésidents groupe de travail cette semaine, ainsi que les rapporteurs. Et donc l'objectif de la réunion, il est double. Premièrement, donc, nous allons parler des recommandations, d'une manière générale, toutes les recommandations, pour voir si les commentaires du Conseil sont cohérents avec la recommandation. Et sinon, quelles sont les différences d'opinion et comment faire? Nous pensons qu'il n'y a pas beaucoup de divergences, en fait. Nous avons effectué l'exercice dans deux ou trois domaines et nous pensons que c'est une question de principe, surtout en ce qui concerne l'intérêt public et ce que cela veut dire. Donc, nous allons avoir cette discussion de manière très franche et très ouverte. Comme je l'ai dit, nous sommes tous dans la même situation. Ce n'est pas que les gens souhaitent que le processus soit retardé. Hein. Il n'y a aucune raison de retarder le processus. Deuxième chose, la mise en œuvre. Nous avions adopté une résolution, je ne sais plus trop quand, mais à un moment, par rapport au WS2. Et donc, en principe, on avait dit, par principe, on accepterait toutes les recommandations tant que l'intérêt public était respecté. Et si il y avait une recommandation que nous n'approuverions pas, il fallait qu'il y ait les deux tiers du Conseil qui votent pour ne pas l'approuver. Ce que dit le Conseil, c'est que nous avons besoin, avant de prendre une décision définitive, d'un plan de mise en œuvre du point de vue des coûts qui nous viennent de la part de notre PDG. Donc disons, par exemple, que nous sommes d'accord sur toutes les recommandations. Est-ce qu'on les met en œuvre toutes en même temps, quel que soit le coût? Ou alors, et quelles que soient les ressources, hein, ou alors, est-ce qu'on établit un calendrier sur 3 à 4 ans? Donc, ce n'est pas encore très clair. Je n'ai pas vu la totalité du projet. Mais d'une manière générale, je pense que nous sommes relativement d'accord. Il y a encore quelques domaines à ajuster. Et puis, il y a la question de la mise en œuvre. Donc, il y a en fait une ambiance assez positive. C'est ça qui est important à la base. Et nous allons travailler de manière collaborative pour arriver à une bonne entente sur les étapes à venir. Il y aura nos micros. Parfois, on m'accuse, mais en général, c'est parce que je respecte les statuts. Il faut qu'il y ait une proposition de budget et ce sera la communauté qui décidera. C'est difficile pour le Conseil de dire « oui, voilà comment on va faire les choses ». Si c'est une question d'argent, tout revient au budget et ce budget est approuvé, en fin de compte, par la communauté, par le processus de communauté habilitée. Donc, je crois que le message à la base est le suivant. Ce n'est pas vraiment une question de budget. C'est une question de savoir comment établir le dialogue. C'est une question de calendrier, c'est une question de savoir comment tout ceci, qui représente beaucoup de travail pour la communauté, peut être mis en place. Donc il faut vraiment penser à cette mise en œuvre, justement. C'était un petit ajout par rapport à ce qu'a dit Chérine. Chérine au micro. Encore une petite chose. Par rapport au WS1, on a vraiment creusé dans le fonds de réserve 36 millions, hein, quand même, pratiquement. Et maintenant, le fonds de réserve, nous n'allons plus l'utiliser pour financer le WS2. Donc, nous devons pouvoir le faire dans le cadre de l'exploitation de base. Donc, il y a des limites en termes de calendrier. Il faut trouver les moyens de mettre ceci en place. Il n'est pas du tout responsable de dire « bon, allez, je prends tout le fonds de réserve et je finance la piste de travail numéro 2 ». Ce n'est pas responsable du point de vue financier. Donc, il nous faut trouver d'autres moyens de planifier les choses et le faire de manière intelligente et raisonnable. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus? Oui, tout à fait. Il y aura nos micros. Mais continuons la discussion. Nouvel intervenant au micro. Nous avons déjà parlé du budget à plusieurs reprises, donc maintenant on pourrait peut-être passer à la question 3. Fazi ou Eden? Eden, allez-y. Eden au micro. Alors, excusez-moi. Pour vous, je crois que cette question a déjà été traitée au forum public, mais dans le budget, il y a un certain nombre de réductions qui ont un impact direct ou indirect sur notre travail relatif aux politiques. Et notre réussite dépend d'un certain nombre de facteurs, et donc entre autres, les ressources qui nous permettent de participer dans le processus d'élaboration des politiques. Donc, nous souhaitions attirer votre attention sur l'impact que ces réductions budgétaires ont sur nous, si elles sont approuvées. Donc, dans le budget qui a été proposé, les demandes de budget supplémentaires sont réduites des deux tiers et il y a également l'élimination du CROP. Et pour nous, ce sont deux programmes qui sont importants pour l'information de nos membres et pour l'information des partis qui nous intéressent par rapport aux différentes politiques de l'ICANN. Nous utilisons ces programmes pour renforcer les capacités, pour mieux être impliqués dans les questions relatives aux politiques à l'ICANN et pour recruter également les volontaires, les bénévoles qui participent au modèle multipartite de l'ICANN. Et donc, nous pensons que la réussite de ces programmes est évidente. Si vous regardez un petit peu ce qui s'est passé au fil des années, par exemple, l'année dernière, nous avons publié 31 commentaires publics. L'année d'avant, c'était uniquement 7. Et ce n'est pas uniquement grâce au CROP. Nous l'avons certes énormément utilisé pendant l'exercice passé. Nous ne l'avions pas utilisé par le passé. Et nous avons également plus utilisé les demandes budgétaires supplémentaires qu'auparavant. Donc, ce sont des ressources que nous avons exploitées pour avoir plus d'influence, pour mieux travailler. Alors, certes, il y a des coupes budgétaires, nous ne sommes pas en train de vous dire que nous devons être protégés contre tout ça. Mais ce qui est important, c'est que ces coupes budgétaires ne doivent pas uniquement avoir un impact sur nous. Ils doivent avoir un impact sur tout le monde. Alors, j'aimerais savoir si vous êtes d'accord par rapport à ça. Est-ce que ces réductions budgétaires doivent être appliquées de manière uniforme et égalitaire dans toute la communauté et pas uniquement avoir un impact sur nous? Merci. Nouvel intervenant. Alors, pour répondre à votre question, est-ce que le Conseil est d'accord avec ces réductions budgétaires? Nous n'en avons pas encore parlé de cette manière. Nous sommes en cours de considération. Nous avons donc tout ce feedback, tous ces commentaires de la communauté. Nous allons le prendre en considération. Et même chose pour les demandes de budgétaires supplémentaires. Et nous allons ajuster la proposition de budget en fonction de ce que nous attendons, avant de l'amener devant le comité financier et devant le conseil d'administration. Donc nous en sommes vraiment au début du processus, le conseil n'a pas forcément tout pris en compte. Mais par rapport à ce que vous avez mentionné, pour votre communauté et par rapport aux questions de financement, vous avez donc le programme des boursiers, le financement du CROP et les ABR. Je crois que, à la base, ce que l'organisation a fait dans la proposition, c'est de se concentrer sur les exigences fondamentales de participation aux réunions de l'ICANN. Le CROP, c'était plutôt externe. Et également, les coûts nécessaires pour les réunions de l'exercice 2019 sont plus élevés. Donc, nous voulions nous assurer que les gens puissent quand même participer aux réunions, venir sur place pour les réunions de l'ICANN, mais ça coûtait plus cher. Donc, cette proposition de budget s'assure que tous les financements nécessaires pour les déplacements, pour se rendre aux réunions, soient assurés. On en a parlé un petit peu hier. Il y a moins de membres de personnel qui vont participer aux réunions et c'est justement ce qui permet de contrebalancer ces augmentations du coût des réunions. Donc voilà un petit peu ce qui se passe. Alors par rapport à votre question, nous allons effectivement y repenser au niveau du conseil d'administration et nous apprécions beaucoup le sentiment que vous avez exprimé, la préoccupation qui existe dans la communauté par rapport à cette partie du travail. Nouvel intervenant. Oui, j'aimerais ajouter quelque chose. Premièrement, la communauté ne choisit pas les lieux des réunions. Donc, le fait que des lieux plus chers aient été choisis, c'est quelque chose qui ne nous appartenait pas. Le CROP, par contre, a disparu sans que la communauté soit consultée. Et donc, du point de vue procédural, pour nous, c'est quand même inhabituel. Alors, je change un petit peu la question. Je pense que je l'ai mal posée, mais c'est un sentiment général que je souhaite avoir. Pour vous, est-ce que les réductions budgétaires doivent être en fait équitables dans toute la communauté? Ma perception, c'est qu'il y a une augmentation du coût du personnel alors que le soutien apporté à la communauté, les ressources allouées à la communauté ont baissé. En tout cas, c'est la perception. En fait, on a l'impression que ICANN.org ne reconnaît pas la valeur du travail des bénévoles. Je ne dis pas que c'est mon sentiment, mais c'est ce qui existe, c'est ce que disent les gens. Il y aura nos micros. Justement, c'est très bien parce que ça me permet de vous donner un petit peu mon point de vue. Par rapport aux réunions, il est dit par la communauté que nous devons aller dans le monde entier. Et il y a des lieux qui coûtent plus cher que d'autres. Et je crois qu'on n'est jamais allé au Japon, n'est-ce pas? Même chose, on est allé dans les pays arabes pour la première fois, la dernière fois. Donc ça, c'est quelque chose dont il faut qu'on discute. Si vous pensez qu'il faut qu'on change cette rotation, il faut qu'on en parle au sein de la communauté. Et puis, dans cette salle actuellement. Nous avons nos traducteurs extraordinaires. Nous avons eu 299 séances à cette réunion qui, pour beaucoup, ont été interprétées. Vous savez, parfois, les gens doivent venir à 6 heures du matin et les gens doivent quand même dormir. Donc, même les réunions, tout ceci est très important. Et puis, tout ce que nous faisons, ce que Sally fait, ce que toute l'équipe des réunions fait, tout ceci est à l'appui du modèle multipartite. Mais il y a des limites budgétaires, donc il faut choisir. Nous avons choisi de faire la réunion ici, je crois que c'est important, et donc il y a un coût à ça. Donc, par exemple, éliminer un jour aux réunions, ça a un impact sur le budget. ICANN.org, son seul objectif, c'est d'être au soutien de la communauté. En fait, on a augmenté les dépenses pour les voyages de 13% pour la communauté. Et nous avons réduit les voyages pour le personnel. Je crois que c'était de 10%. Parce qu'en fait, cela coûtait plus cher. Donc, c'est ce qu'on fait au niveau des chiffres. C'est ce que je souhaitais vous expliquer. Pour l'exercice 19, nous avons réduit les coûts internes de 18,5 millions, donc 6,5% du budget total. En matière d'efficacité, nous faisons les choses différemment. Nous avons déplacé certains morceaux. Et pour l'exercice 19, nous n'avons pas ajouté beaucoup de personnes au personnel. Donc tout ça, c'est mécanique. Vous avez l'impression peut-être que je me défends, mais je suis le premier à reconnaître que nous n'avons jamais eu l'opportunité de parler de ceci de manière adéquate dans la communauté. J'aimerais bien qu'on puisse en parler parce que à la base, moi, je dois vous proposer un budget. Et après, ce n'est pas une décision. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va vous demander vos commentaires. Et ensuite, au conseil d'administration, on considère tous les commentaires, on essaie de les incorporer, de faire un exercice d'équilibre. Et ensuite, on a une autre proposition du conseil d'administration qui vient en fait des commentaires de la communauté habilitée. Et plus on en parle, et ma proposition, c'est en fait d'avoir un processus de 2 ans du budget pour qu'on ait vraiment un dialogue par rapport aux priorités de l'ICANN en tant qu'institution. Parce que personnellement, et là, je parle en mon nom personnel, si vous me le permettez, c'est que nous travaillons trop sur la mécanique et finalement, la communauté n'a pas le temps de réagir. Et moi, je n'ai pas le temps de faire mon travail non plus parce que les délais sont trop courts. Il faut 15 mois pour établir un budget de 12 mois parce qu'on s'occupe également du budget IANA et on vous a demandé vos commentaires là-dessus. Ça fait partie du budget total de l'ICANN. Donc, je pense qu'il faut mieux réfléchir à ça. Le dialogue, il doit être continu. C'est ça qui est important. Yoran. Ensuite, Sherine. Pardon. Je voulais simplement mentionner qu'il faut qu'il y ait un mécanisme qui permette de voir un petit peu quel est l'impact et l'utilisation des services et voir si ces services ne sont pas utilisés. À ce moment-là, on peut réduire les coûts. Et par exemple, l'interprétation, si l'interprétation n'est pas utilisée, si on peut mesurer ceci, eh bien, il faut couper ces coûts. Mais il faut voir les chiffres, il faut voir qu'il y ait une mesure. Si les services ne sont pas utilisés, eh bien, on n'a pas à les fournir. Chérie, nos micros, je vais être rapide, je vais être bref, mais ce que je souhaitais dire, c'est que si j'étais à votre place, je comprendrais exactement votre point de vue parce que vous êtes là et vous voyez ce que vous faites, ce dont vous avez besoin, crop, etc. Et vous vous dites, mais pourquoi moi, je ne peux pas faire mon travail? Et c'est exactement ce que je ferais si j'étais à votre place. Maintenant, mettez-vous à ma place ou à la place de Yoran. Il a le monde entier qui lui dit exactement la même chose. Enfin, plutôt des choses qui sont un petit peu dispersées. En fait, les gens ont des préoccupations, ont leurs propres préoccupations. Et lorsqu'il y a des réductions de budget, les gens sont toujours mal à l'aise parce que tout le monde cherche à faire tout ce qu'il peut pour faire son travail. Les gens ne sont pas là pour s'amuser, hein, c'est compliqué. Et donc, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit amélioré dans le processus. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais mettez-vous à la place de Yoran ou à ma place. Nous allons donc rassembler cette fois-ci tous les commentaires. Tout sera pris en compte et on va essayer autant que possible d'établir un équilibre entre les responsabilités fiscales et les désirs que nous avons tous que les bénévoles, la communauté, participent de manière efficace au sein de l'ICANN. Alors, ce ne sera pas parfait à 100%, mais nous vous écoutons, nous vous entendons et nous prenons en compte toutes vos préoccupations. Merci. Je crois qu'on a pratiquement terminé. Donc, Stéphanie, 10 secondes, s'il vous plaît. Stéphanie, au micro. Oui, juste 10 secondes. Alors, apparemment, je ne peux plus parler du COSO. Alors, il nous faut un retour sur investissement, une évaluation du retour sur investissement de manière à procéder de manière rapide. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, tout notre temps est dans les révisions et on ne le fait pas de manière adéquate. Donc, il faut évaluer, par exemple, les services de traduction et voir quel est le problème. Et pas en 5 ans. Merci. Merci beaucoup, Stéphanie. Désolée, nous n'avons pas pu passer aux 2 dernières questions. Mais donc, nous vous répondrons par la suite. Merci beaucoup. Il y aura nos micros. J'apprécie beaucoup ce dialogue. Le dialogue a été excellent, d'ailleurs. Merci. Et en plus, c'était vraiment un dialogue qui a eu lieu très tôt ce matin, donc bravo. Merci à tous. Nous avons terminé.